Midi et demi, temps universel, 14h30 ici à Paris. On vous retrouve, Nicolas Brousse, pour Afrique Midi. Bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Conférence de presse impromptue à Bujumbura. Le président d'Aïchimier se félicite de la bonne tenue des élections du 5 juin dernier et invite l'opposition burundaise, qui ne partage pas son avis, à se rapprocher de la justice, vous l'entendrez. Dans l'est de la RDC, c'est Bintou Keïta elle-même qui a conduit la délégation de la MONUSCO à Goma. Long entretien hier avec les représentants de l'alliance AFC M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord Kivu depuis fin janvier. Le président béninois ne sera pas candidat à un troisième mandat, il l'avait déjà assuré, il en a donné une nouvelle preuve hier avec un discours devant l'ensemble des maires et préfets qui avaient tout d'un discours d'adieu. Au Niger, pile un an après la levée de son immunité, le président Bazoum renversé n'a toujours pas été jugé alors que les nouvelles autorités l'accusent notamment de trahison. Mohamed Bazoum et son épouse vivent reclus dans une chambre de la résidence présidentielle sous étroite surveillance. La grande famille football accueille une nouvelle venue, la Coupe du Monde des clubs, avec parmi ces clubs des Africains dont Al Ahly du Caire qui affronte en match d'ouverture tout à l'heure l'Inter Miami, emmené par un certain Lionel Messi. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue, on tourne ensemble la première page. Mais avant de développer ces titres, un point sur le conflit entre Israël et l'Iran. Échange de tirs de missiles et de frappes aériennes ce samedi encore entre les deux pays, distants de plusieurs centaines de kilomètres. L'Iran considère comme une déclaration de guerre l'opération Rising Lion, lancée hier officiellement pour empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire. Parmi les victimes d'ailleurs se trouvent 9 scientifiques du nucléaire iranien. L'armée israélienne de son côté reconnaît que 7 soldats ont été blessés durant les frappes iraniennes de la nuit dernière. Cette escalade inquiète bien sûr la communauté internationale. Le chef de la diplomatie britannique vient de se dire alarmé. Le président russe Vladimir Poutine, lui, condamne l'attaque israélienne et se propose comme médiateur. Mais alors que la Russie et l'Iran sont de traditionnels alliés, à l'image d'Israël et des États-Unis, l'expert militaire Guillaume Ancel estime que cette fois, Moscou a littéralement abandonné son allié iranien.
L'Iran est extrêmement fragilisé. Il faut bien noter que l'Iran a été totalement abandonné par la Russie, parce que son vrai protecteur jusqu'ici, qui lui permettait d'avoir une puissance régionale, c'était le fait que Moscou soit derrière. Et pour la première fois, la Russie n'a pas prévenu l'Iran de cette attaque en cours d'Israël. Alors c'est eux qui leur fournissaient ce renseignement essentiel, au même titre que ce sont les Américains qui préviennent les Israéliens quand l'Iran tire sur Israël. Et ce temps de prévenance est extrêmement important. C'est ce qui fait que il y a une partie des dirigeants politico-militaires qui sont fait décapiter hier parce qu'ils n'avaient même pas l'information qu'une attaque était en cours. Donc en fait, l'Iran est très isolé actuellement. La vraie cible d'Israël, ce n'est pas les installations nucléaires qui sont extrêmement difficiles à détruire dans leur intégralité. C'est de affaiblir et espérer renverser le régime des Mollahs que personne ne regrettera.
Guillaume Ancel, l'un des invités de Julien Coquel-Rohem dans l'émission spéciale d'RFI Matin, à réécouter sur RFI.fr. Et dans ce contexte, la caravane de solidarité avec Gaza, partie de Tunis en début de semaine, a été bloquée hier à Sirte en Libye, une zone sous contrôle de l'homme puissant de l'Est libyen, Khalifa Haftar, allié de l'Égypte. Organisé par un groupe de militants du Maghreb, ce convoi comptait participer à une marche internationale au départ du Caire vers Gaza, visant à symboliquement briser le blocus israélien. Encore faut-il obtenir visa et autorisation. Ça n'est pas gagné, mais Mourad Benjedo, l'un des organisateurs, veut garder espoir. Ouda Ibrahim l'a joint depuis Tunis.
Lors de sa progression jeudi, pour atteindre le passage frontalier Al-Saloum entre la Libye et l'Égypte, la caravane a été stoppée par les autorités libyennes sur un barrage sécuritaire situé à 30 km de Sirte. Les papiers d'identité des participants ont été contrôlés, mais les forces de l'ordre ont affirmé, après un appel établi par le comité dirigeant de la caravane, qu'ils n'ont toujours pas reçu d'ordre officiel leur permettant de nous laisser passer. Ils ont réclamé plus de temps pour davantage de contrôles et de contacts. Ils ont demandé la liste des noms et des nationalités de tous les participants, ce qui leur a été fourni. Il s'agit de plusieurs nationalités maghrébines. Et devant l'insistance des autorités, les responsables du convoi présents sur les terrains ont, face à cette interdiction, décidé de dresser des tentes sur la route, à l'endroit même où on les a arrêtés. Nous cherchons à débloquer la situation et les contacts se poursuivent avec les autorités libyennes sur place.
Et cette marche a été bloquée aujourd'hui à la sortie du Caire également par les autorités égyptiennes. Ce dossier proche-oriental se suit en temps réel sur RFI.fr et toutes les heures dans nos prochaines éditions. Au Burundi, le pouvoir a-t-il tué la démocratie en organisant des élections qui ne respectent aucun standard international ? L'opposition, en tout cas, le pense après le double scrutin législatif et communal du 5 juin dernier, dans lequel le parti CNDD-FDD a remporté tous les sièges en jeu. Le président Évariste Ndayishimiye a décidé de répondre à l'opposition au cours d'une conférence de presse impromptue aujourd'hui à Bujumbura. Lui se félicite d'élections qui, dit-il, se sont déroulées dans la paix, le calme et la transparence, et il appelle les opposants qui ont des récriminations contre la commission électorale à se rapprocher de la justice.
Je voudrais rassurer tous ceux que j'entends se plaindre pour les résultats des élections. Je voudrais donc demander à ce propos qu'ils arrêtent de se plaindre et qu'ils portent plainte contre le bureau de vote où il y a eu des problèmes, en précisant de quel bureau de vote il s'agit exactement et le type d'irrégularité qu'ils disent avoir constaté. Mais sachez qu'il faut, avant d'aller porter plainte devant la justice, s'assurer que les institutions du pays, à commencer par moi-même, ne peuvent pas résoudre votre problème. Il faut savoir que la CENI, c'est une commission nationale indépendante qui est déléguée pour organiser les élections pour le pays. Donc si les agents de la CENI font mal leur travail, ceux qui sont lésés ont toute latitude de se référer aux institutions qui les ont déléguées pour leur dire « Ceux que vous avez désignés sont en train de travailler contre nous ». C'est pourquoi il faut d'abord voir les institutions qui dirigent le pays.
Des propos traduits par Esdras Dikoumana. L'Est de la RDC accueille depuis jeudi une délégation de la MONUSCO menée par sa chef elle-même, Bindu Keïta. Cette équipe de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix a passé de longues heures hier avec des représentants de l'alliance AFC M23 qui contrôle la capitale du Nord Kivu depuis le 26 janvier. Rencontre importante en soi, mais François Mazé, peu de commentaires de Bindu Keïta qui garde ses conclusions pour le Conseil de sécurité du 27 juin prochain.
Arrivée la veille à Goma, la délégation de la MONUSCO menée par Bindu Keïta a passé la quasi-totalité de la journée avec celle de l'AFC M23. Face à la représentante d'Antonio Guterres, le coordonnateur du groupe Corneille Nanga et le coordonnateur adjoint Bertrand Bissimoua. Dans un post lacunaire sur les réseaux sociaux, la MONUSCO a expliqué que la réunion avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. À la sortie des discussions devant la presse, Bindu Keïta a dit le minimum, expliquant qu'elle présente très prochainement ses conclusions au Conseil de sécurité.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise.
Selon un cadre de l'AFC M23 joint par RFI, cette prise de contact a permis aux deux parties d'apprendre à se connaître. En mars, Corneille Nanga avait déjà reçu Bruno Le Marquis, le numéro 2 de la MONUSCO.
Dossier suivi par François Mazé. En Côte d'Ivoire, les militants du PDCI-RDA marchent à Abidjan aujourd'hui pour exiger la réinscription immédiate et sans condition de leur leader Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il a été déclaré inéligible pour la présidentielle d'octobre prochain après une décision de justice prononcée en avril et qui conteste sa nationalité ivoirienne. Cette marche est soutenue par la coalition de l'opposition CAPCI qui réclame également des réformes du processus électoral. Des nouvelles du président nigérien Mohamed Bazoum, dont l'immunité présidentielle était levée il y a pile un an, 11 mois après le coup d'État qu'il a renversé. Cette décision de la Cour d'État, plus haute juridiction du pays, ouvrait normalement la voie à un procès devant un tribunal militaire. Les nouvelles autorités accusant le président renversé de trahison, complot d'attentat à la sécurité de l'État et apologie du terrorisme. Mais un an après, le dossier n'a pas bougé. Magali Lagrange, aucune procédure engagée contre l'ancien chef de l'État, toujours détenu avec son épouse dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey.
Mohamed Bazoum n'a été entendu qu'une seule fois depuis la levée de son immunité par des enquêteurs de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire, c'était en août dernier. Depuis, selon des sources proches du dossier, plus rien. Le chef de l'État renversé n'a pas été présenté à un juge, il n'a pas été inculpé à ce jour. Il est donc en état d'arrestation illégale, en dehors de toute procédure judiciaire, résume Maître Mamadou Ismaïla Konaté, l'avocat, ancien ministre malien de la Justice, qui appelle régulièrement à la libération de Mohamed Bazoum, juge la situation dramatique et révoltante. Car Mohamed Bazoum reste détenu avec son épouse dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État il y a près de 2 ans. Selon un de leurs proches, le couple occupe ce qui était la chambre d'un de leurs enfants, qui se compose aussi d'un petit salon et d'une salle de bain. Leur porte est gardée et ils ne peuvent prendre l'air sur la terrasse que sur demande. Selon cette même source, Mohamed Bazoum garde le moral. Il continue de recevoir régulièrement la visite de son médecin. Le président renversé n'a jamais signé sa démission.
Précision de Magali Lagrange. À l'issue de sa 139e session hier, la conférence des évêques du Togo dénonce dans son communiqué la violence, la désinformation et les atteintes aux droits de l'homme. Déclaration alors que le pays traverse une période tendue ces derniers jours, marquée par l'interpellation de l'artiste Amron, les appels à manifester pour sa libération et la répression qui s'en est suivie la semaine dernière. Au Bénin, à quelques mois du prochain rendez-vous électoral prévu début 2026, l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, ne compte pas se représenter au terme de son second mandat de 5 ans, respectant ainsi la Constitution. Il l'avait déjà signifié à plusieurs reprises, il l'a encore réaffirmé hier devant l'ensemble des maires et des préfets au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Extrait de son discours d'adieu recueilli par Jean-Luc Aplogan.
Nos railleries actuelles sont faites pour nous exhorter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Je voudrais que mes propos soient perçus dans leur sincérité, dans leur solennité. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement, à notre capacité de création de richesses. Et je n'ai qu'une prière, vivre un peu longtemps pour constater cela de mes yeux, mes propres yeux. Que Dieu bénisse le Bénin, vous bénisse. Merci beaucoup.
Lui était l'un des principaux opposants tchadiens. Yaya Dillo a été tué lors de l'assaut du siège de son parti socialiste sans frontières par l'armée tchadienne en février 2024. Plus d'un an après, beaucoup de zones d'ombre subsistent au point que son frère Ousmane Dillo a déposé une plainte contre X en France pour assassinat et complicité d'assassinat impliquant au moins un ressortissant français. Son avocat Charles-Stéphane Marcani, joint par Clotilde Hazard, pointe à minima l'inertie des autorités tchadiennes.
Aucune enquête n'a été menée. Le ministre de la Justice tchadien a dit qu'il n'y aurait pas d'investigation particulière. Monsieur Yaya Dillo est mort par balle. À la suite de son décès, contrairement à tous les usages internationaux, il n'y a eu aucune autopsie. Il a été directement enterré et le gouvernement tchadien s'est refusé à toute autopsie. Moins de 48 heures après, l'immeuble du Parti Socialiste sans frontières où l'assaut avait été donné et où monsieur Yaya Dillo a trouvé la mort a été purement et simplement rasé par les autorités tchadiennes. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître la scène de crime. Effectivement, pour mener une enquête ensuite, c'est très difficile d'aboutir. Il y a des éléments qui aujourd'hui ne sont pas connus des victimes et pourront être portés à la connaissance du procureur de la République de Paris si celui-ci ouvrait une enquête et utilisait les prérogatives qui sont les siennes, notamment en matière de droit de communication.
À 12h43, temps universel, alors que l'heure est plutôt à la bataille des droits de douane menée par le président américain Donald Trump, le rival chinois adopte une stratégie de contre-pied en faisant un geste historique en direction de l'Afrique. La Chine annonce être prête à supprimer les droits de douane sur les exportations venant de 53 pays africains, annonce à l'occasion de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Jusque-là, seuls 33 pays du continent bénéficiaient de ces exemptions totales. Cet élargissement pourrait notamment profiter aux grandes économies industrielles, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou encore le Maroc. Mais pour le chercheur Xavier Oregon de l'Université catholique de Lille, l'annonce est en fait plus politique qu'économique.
puisque le continent africain exporte peu de produits transformés vers la Chine, essentiellement des matières premières. Et donc l'annonce faite par Pékin forcément va être limitée en conséquences économiques, commerciales pour les pays africains. Certains pays africains pourraient effectivement gagner quelques devises, notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, un petit peu l'Éthiopie ou le Maroc et l'Égypte. Donc des pays qui sont relativement industrialisés, qui peuvent exporter des produits transformés vers Pékin. Mais pour les autres, au Sahel ou ailleurs, en Afrique centrale, où on exporte quasiment que des matières premières brutes non transformées, l'annonce, disons, sera peut-être vue d'une manière bienveillante, mais fatalement, ça ne changera pas grand-chose pour la balance commerciale. C'est une annonce qui est politique dans le sens où elle va évidemment à l'encontre des annonces de Washington, forcément après l'USAID, et la tergiversation un petit peu du gouvernement Trump, forcément la Chine essaie de prendre à contre-pied la politique étrangère américaine et commerciale d'ailleurs, et entend s'afficher évidemment comme le pays qui va venir au secours de populations ou d'élites africaines, sachant que Washington fait marche arrière.
Analyse recueillie par Alexandra Branjon. Football, la Coupe du Monde des clubs, nouvelle compétition lancée par la FIFA. Elle démarre officiellement cette nuit aux États-Unis, l'occasion d'affiches inédite dès le match d'ouverture. Ainsi, l'Inter Miami, avec l'Argentin Lionel Messi, débute son tournoi face à un mastodonte du continent, Al Ahly du Caire. C'est évidemment cette équipe qui nous intéresse, Sofiane Amazian. Les Diables Rouges, équipe la plus titrée d'Afrique, peut nourrir légitimement de belles ambitions, malgré une saison jusque-là un peu en deçà.
Maintenir la dynamique après la victoire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi fait figure de favori de cette nouvelle compétition. Le prix Marc Vivien Foët 2025 réalise la saison de sa vie, auteur de 9 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Il sera l'un des joueurs à suivre assurément. Lui aussi a brillé au niveau statistique. L'attaquant guinéen de Dortmund, Serou Guirassy, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations, a fait taire les sceptiques et sera surveillé de très près par les défenses adverses. À surveiller également le Gabonais Denis Bouanga, machine à but depuis son arrivée chez les Los Angeles FC en 2022. C'est d'ailleurs lui qui offre la qualification à son club face à Club América. Passé par la Ligue 1, comme Bouanga, Youssef Belaïli a fait son nid du côté de l'Espérance de Tunis. Connu pour sa carrière plutôt tourmentée, l'ailier algérien de 33 ans démontre l'étendue de son talent. Ces derniers mois, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions africaine. Aussi habile en club qu'en sélection, Ronwen Williams peut nourrir lui des ambitions avec les Mamelodi Sundowns. Nommé pour le trophée Yashin en octobre dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le portier des Bafana Bafana devra sortir le grand jeu pour exister dans une poule composée notamment du Borussia Dortmund.
Sofiane Amazian, coup d'envoi d'Inter Miami à l'Arly, ce sera à minuit temps universel et pour l'heure il est heure de Miami, 8h46. Sans plus attendre, la une de Jeune Afrique avec François Soudan, le directeur de la rédaction. Il est interrogé par Catherine Potet. Au sommaire, bilan d'étape de la politique de Donald Trump en Afrique, 6 mois après son retour au pouvoir.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
On ne s'attendait pas à une politique très amicale de la part du président américain vis-à-vis du continent africain, mais la réalité dépasse ce que les plus pessimistes avaient imaginé. C'est pourquoi vous parlez de véritable maltraitance.
Oui, la liste des mesures prises depuis 6 mois dont le continent est la cible délibérée ou la victime collatérale, elle est impressionnante, Catherine. Dernière en date, le travel ban, évidemment, l'interdiction d'entrée aux USA des ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, qui est entré en vigueur depuis le 9 juin. C'est une décision violente, discriminatoire, qui peut paraître infamante dans ses motivations officielles, mais qui obéit finalement à l'implacable logique de la politique migratoire trumpienne. Tout étranger en situation illégale est considéré comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, et les pays dont le pourcentage de ressortissants demeurant sur le territoire américain au-delà du délai légal de leur séjour est jugé excessif, même si leur nombre est faible, ou ceux dont les passeports profitent à des individus suspects de liens avec les organisations labellisées terroristes comme le Hezbollah, font l'objet d'une punition collective. Pour les étudiants africains de ces pays désireux de s'inscrire dans une université américaine, c'est une sorte de double peine puisqu'était déjà en vigueur depuis la mi-mai la circulaire du secrétaire d'État Rubio suspendant sine die les entretiens préalables à l'obtention de visa dans toutes les ambassades et consulats du continent, Catherine.
Les Africains doivent donc faire avec les suspensions ou les interdictions de visa et plus grave encore avec les coupes drastiques dans les budgets d'aide au continent, coupes dont les conséquences sont particulièrement sérieuses.
Ah oui, le « nous ne voulons pas d'eux » asséné avec mépris par Donald Trump à propos des citoyens des pays visés par le travel ban s'accompagne d'un « dégager l'Amérique d'abord », adressé aux bénéficiaires de l'aide, perçu comme autant de sanctions. Alors, il y a eu d'abord la tronçonneuse Musk, amputant des 3/4 le budget de l'agence USAID, puis le retrait de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de la quasi-totalité des programmes du Haut-Commissariat aux réfugiés, alors que la BAD, la Banque africaine de développement, se voit menacée d'une suppression de la contribution américaine, cette dernière mesure, elle figure dans le projet de loi budgétaire 2026, lequel comporte également une lourde taxe sur les transferts de fonds à l'étranger, qui s'annonce problématique pour de grands pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Sénégal, et carrément meurtrière pour les petits, je pense à la Gambie, au Cap-Vert, au Liberia, au Lesotho, là où les virements en provenance de la diaspora représentent parfois plus de 20% du PIB, Catherine.
Enfin, François Soudan, vous posez cette question, quel effet la politique de Donald Trump aura-t-elle sur le soft power américain ?
Je crois que le président américain se contrefiche des effets de ces multiples décrets sur le soft power de son pays en Afrique. Par exemple, les effectifs de la station Voice of America, qui revendique 37 millions d'auditeurs multimédias sur le continent, ils passeront en août prochain de 1300 à, tenez-vous bien Catherine, 81 salariés. Dans un sondage d'avril de l'index de perception de la démocratie dans le monde, l'image de Trump, elle est négative dans 82 pays sur 100, y compris dans la grande majorité des pays africains. Jamais un président américain n'était descendu aussi bas. Alors le grand rival chinois, il en tire avantage, bien sûr, mais les dirigeants africains seraient peut-être bien inspirés, eux, de mettre à profit cet abandon américain pour réduire leur dépendance, renforcer leur résilience et faire preuve d'un sursaut de dignité collective. Marquer le coup, par exemple, en boycottant au niveau officiel les festivités du 4 juillet, qui est la fête nationale américaine dans les ambassades des États-Unis, des pays dont les ressortissants sont jugés indésirables, ça serait symbolique, finalement la moindre des choses, mais je ne me fais pas trop d'illusions à ce sujet, Catherine.
Le directeur de la rédaction de JA, François Soudan, avec Catherine Potet. Et on retrouve notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
Alors, sous prétexte qu'il a échoué sur tous les plans, Fornia Simbe a été avant-hier sommé de démissionner par l'opposition et la société civile. Jean-Baptiste, est-ce que cette injonction a une chance d'être entendue par le dirigeant togolais ?
Ce serait un miracle, mais comment reprocher à un peuple qui ne croit plus au pouvoir du bulletin de vote d'espérer un signe du ciel, de la possibilité de conduire Fornia Simbe par les urnes? Les Togolais, depuis longtemps, ont fait leur deuil. Ils ne savent pas perdre. Après tout, la réforme constitutionnelle contre laquelle protestaient les jeunes arrêtés la semaine dernière visait à perpétuer son bail aux commandes du Togo en s'épargnant les accusations de mandat sans nombre. Ce serait véritablement un miracle si, après toutes ces contorsions, il démissionnait à la suite d'une simple injonction d'opposants. Tout comme il serait illusoire d'espérer le voir abandonné par fierté à cause de l'allusion faite à son bilan peu glorieux. Manque de légitimité, carence de la gouvernance, échec sur le plan économique, incapacité à offrir un modèle exemplaire aux jeunes générations. Le tableau dépeint par le professeur David Dosset pour exiger sa démission est accablant. S'accrocher au pouvoir avec un tel bilan, corroboré en plus par certains membres de son propre camp, relève des motivations impénétrables. Il faut du courage, beaucoup de courage, pour renoncer au pouvoir.
Mais peut-être que lui croit simplement que les opposants sont juste de mauvaise foi et que ses anciens partisans sont devenus aigris.
Au-delà des opposants et des déçus de son propre camp, Fornia Simbe a un problème plus grave qui est sous les yeux de tous, les performances plutôt étincelantes des pays voisins. Oublions le Burkina qui a ses problèmes. En plus d'être un pays enclavé, tributaire des États côtiers pour ses exportations et ses importations. À l'est, le Bénin, sur qui le Togo avait dans les années 70 et 80 une avance certaine, accrue par les ravages de la révolution marxiste sous Mathieu Kérékou. Même les lycéens et collégiens béninois préféraient à l'époque aller terminer leurs études secondaires au Togo ou même plus loin. Après la conférence nationale de 1990, le pays s'est relevé progressivement. Mais ces 9 dernières années, le Bénin s'est construit avec méthode, dans une modernité qui s'étend à tout le territoire national, pas seulement à Cotonou et Porto Novo. D'aucuns évaluent aujourd'hui à un bon quart de siècle le retard qu'accuse le Togo par rapport au Bénin, qui a lui aussi ses problèmes politiques, mais même ses plus féroces détracteurs reconnaissent à Patrice Talon d'œuvrer au mieux-être du Bénin et des Béninois. Rien à voir avec ce qu'une ancienne ministre des armées, membre du clan au pouvoir à Lomé, qualifie de petit projet aux objectifs inavouables, vanté par une propagande dont l'unique finalité est la conservation du pouvoir. territoire.
Et à l'ouest du Togo, le Ghana, et vous l'avez souvent dit Jean-Baptiste, rayonne plutôt. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Plus que jamais. Un diplomate angolais devenu ensuite ministre raconte que dans les années 80, en poste à Accra, ils allaient en fin de semaine faire leurs courses et se détendre à Lomé. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin de détente, les Togolais qui en ont les moyens vont en villégiature au Ghana, qui a lui aussi ses problèmes, mais avance de manière irréversible. On pourrait même poursuivre le voyage un peu plus loin, à l'ouest du Ghana, avec la Côte d'Ivoire qui continue de se construire et d'impressionner. Il se trouve que les Togolais visitent ces États voisins et n'ont donc nullement besoin de mauvaise foi pour constater que leur Togo, dans ce voisinage, est d'une anormalité d'autant plus triste que Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir à moins de 40 ans, aurait dû brûler plus que tous d'envie de très bien faire. S'accrocher au pouvoir n'est tolérable que si on s'applique au moins à faire le bonheur de son peuple. Mais toute boulimie de longévité au pouvoir qui se nourrit du mépris de ceux dont on accapare ainsi le destin est, au regard de l'histoire, doublement coupable.
La semaine de Jean-Baptiste Placa à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent ? Comment résonnent-ils en nous ? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher chaque semaine à Lucie Bouteloup. C'est un mot, une histoire.
C'est là où se porte le regard. Et le regard peut être le regard physique ou le regard mental et intellectuel.
C'est la première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile en solitaire. Quand elle n'est pas en mer, Isabelle Autissier écrit. Elle vient d'ailleurs de publier son 5e roman. Et puis aussi, elle milite pour la préservation de la nature et des océans, bien sûr. Et au lendemain de la conférence de l'ONU sur les océans qui se tenait à Nice cette semaine, elle a choisi de nous parler d'un mot porteur d'espoir et de rêve.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Alors j'ai envie de vous parler du mot « horizon ». Parce que l'horizon, c'est l'univers des possibles. C'est tout ce qu'on voit pas et qu'on imagine. On est assis sur la plage, on regarde la mer, on voit l'horizon et on se dit tout de suite « qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et le « qu'est-ce qu'il y a derrière ?», c'est un peu le propre de l'homme quand même. C'est ce qui fait partir les marins, mais c'est ce qui fait partir l'imaginaire aussi. C'est ce que tous les explorateurs, c'est ce que tous les humains, parce que là, je parle d'un horizon physique, mais il y a l'horizon des sciences, il y a l'horizon de la pensée, l'horizon, ça se décline. Et puis, il y a un deuxième sens important pour moi du mot « horizon », c'est la ligne qu'on se trace pour aller quelque part. On dit « mon horizon, c'est ça », c'est-à-dire « je suis en chemin pour telle ou telle chose ».
Avoir de nouveaux horizons, c'est ce qui guide votre parcours ?
Moi, j'ai effectivement fait beaucoup de choses différentes dans ma vie parce que l'horizon est très proche pour moi de la curiosité. J'ai d'abord eu un horizon de scientifique que j'ai exercé. J'ai eu un horizon de course au large. Aujourd'hui, je peux avoir une horizon d'autrice et de militante engagée sur les questions environnementales. Voilà, à chaque fois, il y a des points de fixation, il y a une ligne directrice. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, peut-être justement dans une période où on a un peu du mal à savoir où on va, de se tracer un horizon, qui peut être un horizon personnel, qui peut être un horizon collectif, sur, par exemple, l'exploitation de la mer et des choses de la mer, parce que de manière très utilitaire, c'est notre intérêt, mais aussi parce que, bien sûr, ces êtres vivants ont autant de droits que nous d'être sur cette planète.
Et justement, vers quel horizon il faudrait tendre ? Pour les océans.
Alors, pour l'instant, l'horizon des océans est assez bouché. Les océans vont mal. Ils vont mal chimiquement, ils vont mal en termes de température, ils vont mal en termes de nature et de vie. L'horizon, ce serait d'essayer de garder les équilibres océaniques, donc de limiter les gaz à effet de serre qui sont extrêmement nocifs, et puis de garder la vie dans les océans. La moitié de notre respiration, aujourd'hui, elle vient du plancton marin, et on a absolument besoin de la vie océanique. Donc l'horizon aujourd'hui, pour les océans, c'est d'essayer de conserver ou de restaurer, parce que quand on fait des vraies aires marines protégées, vraiment protégées, avec des vraies législations, ça marche. Mais si on fait juste des rectangles de papier, ça marche pas.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'horizon est la ligne circulaire qui apparaît à un observateur qui en est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre, le ciel et la mer se confondre.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation générale à la langue française.
chronique de Lucie Bouteloup avec la navigatrice Isabelle Autissier qui vient de publier La fille du grand hiver aux éditions Paulsen. Nous, on va prendre le large puisque c'est la fin de cette édition d'Afrique Midi mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Sigrid Azerwal. Dans une minute, pas plus, le retour de l'info. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Nous sommes le 13 novembre 1974. Yasser Arafat est invité pour la première fois à la tribune de l'ONU. Le chef de l'OLP prononce un discours historique et fait basculer l'opinion publique internationale en faveur de la reconnaissance de la cause palestinienne.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.